Bonjour mes frères et sœurs. Ah, ici au château il fait froid, hein? Et ce matin nous sommes réunis dans le salon parce que on ne peut pas sortir du château, on ne peut pas atteindre la chapelle. C'est je sais pas, la Sibérie ici. Enfin voilà, on est coincé là, mais on est bien, on a chaud, on a suffisamment de nourriture pour tenir encore quelques jours. Ça va aller. Ne vous inquiétez surtout pas pour nous, ça va bien, hein? Et c'est très beau en plus, le paysage est magnifique, les enfants jouent dans la neige, ils sont ravis, on se dirait un peu dans mon pays, en Suisse, hein. Voilà, je voudrais vous lire un passage dans Matthieu chapitre 13, verset 10. On va commencer là. Matthieu 13, 10, vous y êtes. Les disciples vinrent à lui, vinrent vers Jésus, lui demander: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il répondit: Parce que s'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du règne des cieux, à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe: Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils ont fermé leurs oreilles, de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour. Je les aurais guéris. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, en effet, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, et ils ont désiré entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, voyez-vous, Jésus dit, vous donc, vous entendez, vous comprenez. Et là, il est en train de leur parler de la parabole du semeur. Quand on lit cette parabole du semeur, il nous semble que son sens est évident. On comprend qu'il y a des gens qui entendent la parole de Dieu et qui ont des réactions différentes. Il y a premièrement ceux qui ne comprennent pas, hein, c'est ceux qui reçoivent la parole, qui reçoivent la graine au bord du chemin. Puis deuxièmement, il y a ceux qui reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de profondeur en eux-mêmes, superficiels. Alors ils finissent par déchoir de la foi aussitôt que le soleil de justice se lève un peu, oh là là, oh non, ils sèchent quoi, voilà. Puis troisièmement, il y a ceux qui entendent, hein, la parole de Dieu et qui laissent des soucis et les attraits trompeurs de la richesse étouffer la parole de Dieu. Et puis enfin, il y a quatrièmement ceux qui entendent la parole de Dieu, qui reçoivent la bonne semence, la parole de Dieu, et elle produit cette semence du fruit. Elle produit 100, 60 ou 30 fruits. Voilà, alors on a fait le tour, et il semble qu'on a déjà tout entendu à ce sujet, n'est-ce pas? Ce matin, je voudrais vous parler, non pas des quatre sortes de terrain, de celui qui comprend rien, celui au bord du chemin, les épines, ou le bon terrain, je ne voudrais pas vous parler de ça. Non, je voudrais vous parler des trois sortes de personnes qui portent du fruit, c'est-à-dire des 100, 60 et 30. On va les appeler les 100, les 60 et les 30. Trois sortes de personnes. Prêt? Sœur, vous savez ce qui me pousse à aller sur mes genoux pour prier, pour demander la lumière? C'est quand Jésus termine sa parabole en disant des phrases comme celle-là, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ouh, c'est un défi. Et puis, juste après, il éclaire ses disciples, ceux qui sont des disciples, Luc 14, 33, c'est ce que nous sommes au sanctuaire. Jésus traite donc cette parabole du semeur comme un des plus grands mystères du royaume des cieux, un mystère dont il ne divulgue le sens qu'aux 12, lorsqu'il est seul avec eux. Mais à vous, il a été donné. Seigneur, y aurait-il quelque chose que tu veuilles nous révéler au travers de cette parabole? Dans tous les évangiles, chaque fois qu'une chose très importante est dite, Jésus dit, lance ce défi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quelque chose d'important vient d'être dit là. Là, juste après avoir dit 60, 100, 100, 60 ou 30, il dit cette phrase terrible. Il y a donc trois sortes de personnes qui sont une bonne terre. Il faut qu'on le comprenne. Il faut que Dieu nous éclaire. Il faut que Dieu ouvre nos oreilles. Est-ce qu'on a les oreilles pour entendre ça? Est-ce qu'on veut entendre ça? Trois sortes de personnes qui finissent par porter du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas une doctrine nouvelle. Vous vous souvenez d'Irénée? Pour ceux qui écoutent mes messages depuis longtemps, vous savez que Irénée, nous croyons que c'est le deuxième ange d'Apocalypse chapitre 2, c'est-à-dire que c'est celui qui a été envoyé de Dieu, ange veut dire envoyé de Dieu, c'était un envoyé de Dieu à une certaine époque de l'histoire de l'Église, 170 après Jésus-Christ, et Irénée n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un d'important, envoyé par Dieu, rempli du Saint-Esprit, et il a enseigné des livres, des choses qui se trouvent dans des livres qui sont accessibles de nos jours. Par exemple, est-ce que vous vous rendez compte que le livre Irénée de Lyon contre les hérésies, dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur, c'est un livre qui a été écrit dans les 170 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 70 ans après l'Apocalypse. Et ce que je vais vous enseigner là, tout démarre de ce livre à partir de la page 677 au chapitre 5. Lisez et comprenez ce qui était cru dans l'Église au début, avant qu'elle soit infestée par toutes sortes de mauvaises choses. Trois personnes qui portent du fruit. Ce sont des personnes qui n'hériteront pas de la même gloire à la résurrection, mes frères et sœurs. Dieu a créé ce monde-ci. Il est temporel, mais la Bible dit que cette figure passera, la figure de ces choses actuelles passera. Par exemple, que nous, qui sommes la bonne terre ici-bas, nous serons renouvelés, nous serons transformés en un instant, nos corps seront adoptés, rachetés. Nous serons alors revêtus de l'immortalité, de l'incorruptibilité. Ce sera... Et puis il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre. Ésaïe 65 en parle aussi, Ésaïe 65, 17. Et du ciel descendra la nouvelle Jérusalem. Alors il y aura trois endroits distincts. Je viens de vous les donner les trois. Le nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Pensez-vous que ceux qui auront porté 30 auront le même degré de gloire que ceux qui auront porté 100? Ah, Dieu est un Dieu d'ordre. Irénée dit que ce sont le conseil des anciens, les presbytes, les disciples des apôtres qui enseignaient ça. Voyez-vous? Quand Jésus viendra, au moment où on ne s'attendra pas, certains, les porteurs de 60, seront d'abord battus d'un grand nombre de coups. Luc 12, 47. On ne prêche pas beaucoup ça dans les églises, hein? Puis, ceux qui n'auront pas connu la volonté de leur maître recevront peu de coups. Ça, c'est les 30. Luc 12, 48. Écoutez, on va le lire parce que c'est tellement peu prêché, tellement peu lu. Alors, on va le faire quand même, nous, hein. On n'est pas... Luc 12, 47. L'esclave qui aura connu la volonté de son maître, mais qui n'aura rien préparé, ni fait en vue de cette volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu, c'est-à-dire qui n'aura pas connu la volonté de Dieu, et qui aura fait, ils auront fait des choses qui méritent un châtiment, ne seront battus que de peu de coups. À quiconque il était beaucoup donné sera beaucoup demandé, à celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. Ah. Puis il y a les infidèles. Ça, c'est, vous verrez juste avant, il y a le texte qui concerne les infidèles, c'est-à-dire ceux qui sont rejetés. C'est-à-dire, dans la parabole du semeur, vous avez 3 sur 4 qui sont rejetés, hein, déjà. Et puis sur ceux qui sont de la bonne terre, il y a 3 sortes de personnes. Alors, quand Jésus viendra, au moment où ils ne s'y attendront pas. Certains, les porteurs de 60, seront d'abord battus d'un grand nombre de coups. Puis, ceux qui n'auront pas connu la volonté de leur maître recevront peu de coups. Ça, c'est les 30. Maintenant, ceux qui auront connu la volonté de leur maître et qui l'auront accomplie seront enlevés sur les nuées du ciel. Ça, c'est les 100. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Ça doit être établi, cette chose. Ça doit être enseigné, ça doit être publié. Nous sommes dans le temps du rétablissement de toutes choses. Les choses doivent être rétablies. Quand Jésus reviendra, beaucoup de serviteurs, dans la version que je viens de dire, d'esclaves de Jésus, dans Luc 12, 47, ne seront pas enlevés, mais ils prendront des coups durant la grande tribulation. Ça va être terrible pour eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des souffrances terribles aujourd'hui. Regardez ce qui se passe sur la terre, c'est effrayant. Mais c'est rien à côté de ce que l'Antichrist fera subir aux Juifs et aux chrétiens à ce moment-là. Aux chrétiens 30 et aux chrétiens 60, Jésus dit qu'il y aura à cette époque une si grande détresse qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et il n'y en aura jamais plus, Matthieu 24, 21. C'est là qu'ils prendront des coups. Certains seront sauvés parce que Dieu abrégera ses jours. Voilà ce qu'il nous est dit. Mais à cause de ceux qui ont été choisis dès avant la fondation du monde, ces jours seront abrégés, Matthieu 24, 22. Moi, je rajoute dès avant la fondation du monde parce que Éphésiens 1 nous le dit, que nous avons été choisis dès avant la fondation du monde. Trois sortes de chrétiens, donc, vivent de nos jours sur cette terre. Trois sortes. 1. Luc 12, 47, ceux qui connaissent la volonté écrite de Jésus, mais qui ne préparent rien, qui ne font rien en vue de cette volonté, pourtant clairement écrite. Ça, c'est les 60 pour 1. Puis, il y a ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. Alors évidemment, ne connaissant pas la volonté de Dieu, ils font des choses en pensant que ça c'est la volonté de Dieu, et voilà, ils pensent que c'est bien, mais c'est pas bien. Et il mérite un châtiment. Et où il y en a beaucoup qui pensent faire des choses bien, correctes pour Dieu, et puis non, c'est pas ça. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est autre chose que le péché. Le péché, c'est une chose. L'iniquité, c'est l'injustice. Vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire vous qui commettez ce qui n'est pas juste. Il y a des chrétiens qui commettent ce qui n'est pas juste, ils croient faire l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre de Dieu. Ce sont tous ces chrétiens qui croient qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, qui ont leur libre arbitre. Moi, j'ai mon libre arbitre. Ah oui ? Jésus dit, seuls ceux qui font ma volonté seront sauvés. Et toi, tu dis que tu as ton libre arbitre, que tu peux faire ta volonté. Parce que les pasteurs ne les ont pas enseignés qu'ils doivent renoncer à leur vie, qu'ils doivent renoncer à leur volonté, qu'ils doivent même renoncer à leurs droits pour vivre la vie de Christ, et faire sa volonté, alors ils pensent qu'ils peuvent faire leur volonté comme ils veulent. Ah oui, mais non, je ne me sens pas poussé. La volonté de Dieu, elle est écrite. Vous n'avez pas à vous sentir poussé par le Saint-Esprit. Ça, c'est des histoires pour vieilles bonnes femmes débiles. Personne ne leur enseigne des choses profondes des Écritures. Ils entendent toujours le même message avec une espèce de sauce différente. Vous savez, quand je me suis lancé dans le ministère dans les années 70... le pasteur qui m'avait pris en charge s'appelle Rachid Bouchami des Assemblées de Dieu à Lausanne. Il était à l'époque, je ne sais pas où il est maintenant, je ne sais même pas s'il est encore vivant. Je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, Michel, te casse pas la tête pour préparer tes prédications, c'est comme le repas dans la famille, des patates, des pâtes ou de la patate. Et puis, simplement, tu changes un peu la sauce pour que ça ait un goût différent. Bravo. Vous dites ça à un jeune homme qui sort de l'école biblique, à 20 ans, 22 ans, 21 ans. Moi, j'étais désespéré. J'ai dit, c'est ça, être serviteur de Dieu? C'est ça, être prédicateur? C'est une des premières choses qui m'a fait tourner la tête et chercher ailleurs que dans les dénominations chrétiennes, frères et sœurs. La sauce un peu différente. Ah, par contre, il y a un ingrédient qu'ils n'oublient jamais. Collecte et dîme. Ah, ça, ils n'oublient pas. Hein? Ils s'engraissent avec ça. Alors, ces braves chrétiens ne connaissent rien, ils ne savent pas. Leur pasteur leur prêche toujours les mêmes trucs avec une sauce un petit peu différente. Mais par contre, ils s'engraissent, n'est-ce pas? Et puis, ils souillent l'eau de la parole de Dieu avec leurs pieds sales. Et c'est à eux que la prophétie d'Ézéchiel 34, 1 à 16 est donnée. Il faut le dire, c'est la Bible. Et je le dis sans amertume, c'est la Bible. Il faut le dire, je suis un prophète en colère. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, il en faut. Dieu est juste, mes frères et sœurs. Ces pauvres chrétiens ne savent pas, ne connaissent pas, et ils font des choses qui méritent un châtiment, alors ils recevront des coups. Mais moins de coups que ceux qui savent et ne font rien. Et puis ensuite, quand tu auras la nouvelle terre, eh bien, les 30, vous vous rappelez ce que ça veut dire, hein? Il y en a qui portent 100, des 100 fruits, il y en a qui portent 60 fruits, il y en a qui portent 30 fruits, hein? Alors, les 30 habiteront la nouvelle terre. Ce sera une gloire moindre. Ceux qui auront été les vainqueurs, c'est-à-dire les 100, trouvez les vainqueurs dans Apocalypse 2 à 3. À chaque fois, dans les sept âges de l'Église, il est écrit, mais pour celui qui vaincra, il y a les vainqueurs dans chaque période de l'Église, dans chaque âge de l'Église. Pour les vainqueurs, ils boiront de la coupe sans mélange avec le Seigneur dans le royaume. Cela, c'est l'épouse. Dans le ciel, je ne parle pas de géographie, là je vous dis, dans le ciel ça veut dire régnant dans les hauteurs, dans les hautes sphères. Et les 60, ben, ils seront sur terre, mais dans la nouvelle Jérusalem. Quand l'épouse aura été enlevée, quand les 60 seront morts dans la grande tribulation, morts sous les coups, quand les 30 seront morts dans la grande tribulation, morts dans les coups, ces trois sortes de chrétiens en esprit seront auprès de Dieu. À ce moment-là, Dieu jugera le monde depuis le grand trône blanc. Vous trouvez ça dans Apocalypse 20, 11. Mais lisez ces choses. Ne dites pas Amen, et puis c'est tout. Lisez, instruisez-vous. Fortifiez votre intelligence spirituelle par les Écritures. Le diable et tous les rebelles à Dieu seront jetés dans les temps de feu. Ça, c'est les infidèles, c'est les renégats, c'est tous ces ceux dont le nom n'ont pas été inscrit dans le livre de vie. Voilà. Mais quand les livres de vie seront ouverts, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Mais il y en a qui seront trouvés dans le livre de vie. Ceux-là seront sauvés. Juste dans la dernière minute là. C'est pour eux que nous sommes en train de nous faire baptiser ici. La Bible dit que font ceux qui se font baptiser pour les morts s'il n'y a pas de résurrection. Nous nous faisons baptiser pour ceux qui sont décédés, qui n'ont pas entendu l'évangile de Jésus-Christ, mais qui l'entendent dans le séjour des morts, selon 1 Pierre 4. Vous lirez ça si vous cherchez à savoir. Et si vous ne voulez pas, ben, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et puis, tout sera détruit. Plus de place pour la terre, plus de place pour les cieux devant Dieu. Apocalypse 20, 11. Terminé. Et puis Dieu recrée un nouveau ciel, et puis Dieu recrée une nouvelle terre, et c'est là que seront les 60 et les 30 sur la nouvelle terre. Les 30 seront les habitants de la nouvelle terre, ils descendront du ciel, c'est-à-dire de l'endroit spirituel où ils étaient après la grande tribulation, après leur mort. Et puis la nouvelle Jérusalem descendra, on trouve ça dans la Bible, c'est-à-dire c'est les 60, ils descendront du ciel, de l'endroit spirituel où ils étaient après leur mort qui a eu lieu lors de la grande tribulation, ils descendront du ciel auprès de Dieu. Ils ne seront pas l'épouse, mais eux, les 60, seront comme une mariée qui s'est préparée pour son mari. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, la Bible dit comme cela. Ils seront comme une mariée qui s'est préparée pour son mari. Si je dis, oh, t'es habillée comme une mariée, est-ce que ça veut dire que c'est une mariée? Non, elle est habillée comme une mariée, mais ce n'est pas une mariée. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Ces gens-là, là, les 60, ils auront l'insigne honneur de vivre une vie communautaire nouvelle sur la nouvelle terre. Et ils serviront Dieu qui sera sur son trône. Et ce trône sera dans la ville, c'est-à-dire dans la communauté. Apocalypse 22, 3. Les 60 Je ne dis pas qu'il y a 60 personnes, hein, vous avez bien compris, c'est ceux qui portent 60 fruits. Hein. Les 60 vivront en communauté, lui rendront un culte, ils verront son visage et le nom de Dieu sera sur leur front. Lisez la Bible et lisez-la bien, vous trouverez tout ça dans l'Apocalypse. Et l'épouse, les 100, ceux qui auront porté 100 fruits sur la terre, l'épouse sera un avec Dieu sur son trône. Il n'y aura pas deux dieux, il n'y aura pas un dieu et sa déesse. C'est-à-dire que l'époux et l'épouse seront un seul esprit régnant. Paul dit que le mystère est grand au sujet du mariage et de ces choses-là. L'homme et la femme qui se marient deviennent une seule chair et c'est un grand mystère au sujet de, par exemple, qui est le parallèle, la typification, si j'ose dire, de l'épouse et l'époux. Ils seront un seul esprit. Et ils régneront, l'époux et l'épouse, sur les nouveaux cieux, sur la nouvelle terre, mais où ? Ils régneront depuis la nouvelle Jérusalem, le trône sera installé là, dans la cité, c'est-à-dire dans la nouvelle communauté, c'est-à-dire dans la nouvelle église. Là, pourquoi la nouvelle Jérusalem ? Parce qu'il y a eu une première Jérusalem, le jour de la Pentecôte. L'église a été établie communauté à Jérusalem. Vous ne pouvez pas aller contre ça. Il n'y a aucun autre modèle biblique de la vie de l'Église sinon celui de Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4. Rejoint avec Luc 14, 33, Galates 6, 6. Vous n'en sortirez pas. Et le psaume, je crois, je ne sais plus là où il est dit, « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est le psaume, je crois, 33 ou 133, je ne sais plus. Frères et sœurs, la nouvelle Jérusalem, dans la communauté, là sera le trône, là où sera l'époux, l'épouse, l'église, dans la nouvelle église. Alors, je sais bien que dans la communauté, personne ne va me dire ça, mais il y a des gens sur Internet qui m'écrivent des fois des trucs un peu marrants, et certains me disent, oui, et alors, ils critiquent. Bon, alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais Michel, ça ne met pas de beurre dans mes épinards, ça ne paye pas mon loyer, tout ça, c'est pas pratique, le peuple n'a pas besoin de ça, tu as un don de guérison, va donc guérir les malades, pourquoi est-ce que tu t'embêtes à prêcher des trucs compliqués, c'est pas ça dont on a besoin, quand on a reçu ce qu'on a reçu de Dieu, qu'est-ce qu'on fait pour de prêcher des trucs pareils, excusez-moi, connaissez-vous ma vie de prière, je suis en train de faire ce que je dois faire de la part du Seigneur. Les miracles ne servent qu'à confirmer que ce que je dis est vrai. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu et son épouse trôneront dans la ville, mais ils ne demeureront pas dans la ville. Ils demeureront ailleurs, aux cieux, dans une gloire bien plus élevée, bien plus importante. Voyez-vous, il y a trois sortes de chrétiens de nos jours sur la terre. Trois sortes de personnes sauvées. Ceux qui portent 100, ceux qui portent 60 et ceux qui portent 30. Il y a trois sortes de gloire selon Paul. 1 Corinthiens 15, 41. Une gloire comparable à celle du soleil, une gloire comparable à celle de la lune et une gloire comparable à celle des étoiles. Et l'apôtre Paul continue et dit, « Ainsi en sera-t-il à la résurrection des morts. Semé périssable, on se réveille impérissable. » Oui, mais dans trois sortes de gloire. Une comme le soleil de justice, qui nous seront unis en tant qu'épouse, ou comparable à la lune, la nouvelle Jérusalem, qui renvoie la lumière de l'époux ou de l'épouse, ou alors à la lumière des étoiles, c'est-à-dire, voilà, beaucoup plus petit. Trois gloires. C'est-à-dire, dans une des demeures préparées par Dieu, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, Jean 14, 2. Ce soir-là, Jésus répondait à Pierre et aux 10 autres disciples. Judas était déjà sorti, on trouve ça dans Jean 13, 30. Il répondait juste à ses disciples. Il parle juste à des disciples, 100, potentiellement 100. Et à eux, il dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 3, il ne dit pas ça à tout le monde. Il ne dit pas ça à tous les chrétiens. Il ne dit pas ça aux 60, il ne dit pas ça aux 30. Non, 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 non. Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit cela précisément à des disciples sans, à des disciples qui ont déjà tout abandonné, tout quitté pour Jésus. Eux, ils seront à la même place que Jésus. Eux, ils seront sur le trône et ils régneront avec l'épouse. Les autres, ben, ils le serviront. Les uns dans la cité, les 60, les autres à l'extérieur de la cité, les 30. Les 30, ce sera les habitants de la nouvelle terre. La Bible nous dit qu'ils seront organisés en nations, Apocalypse 21-24, et ce sera des nations royaumes. Et l'Apocalypse 21-24 nous dit que les rois de ces nations apporteront leur gloire dans la cité, c'est-à-dire qu'il y aura, je pense, chaque année, hein, enfin, il y aura du moins des temps, des moments particuliers où les rois apporteront leur gloire, c'est-à-dire quelque chose comme leur dîme, si vous voulez, ils apporteront leur... leur gloire, voilà, dans la cité. Bon. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà une bonne raison de faire la volonté écrite de notre Maître Jésus-Christ, n'est-ce pas? Voilà une révélation qui doit nous aider à être conséquents avec la parole volonté écrite de Dieu. Arrêtez de dire la parole de Dieu. Dites la parole volonté écrite de Dieu, parce que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il veut. Connaître et pratiquer la parole volonté écrite de Dieu. Mes frères et sœurs, bien sûr, je peux vous prêcher des choses qui concernent notre vie pratique ici-bas. Je le fais. Vous avez plus de 300 prédications sur Internet. Dans Révélation Bible, vous pouvez en trouver plein de prédications sur comment agir, comment réagir, comment ci, comment ça, même comment gagner de l'argent, tout ce que vous voulez. Vous avez tout ça là-dedans, bien sûr. Et je vous enseigne très bien ces choses-là, sans orgueil, je sais ce que Dieu m'a donné. Mais ici, c'est un endroit, c'est une prédication pour des gens qui veulent un peu plus qu'un strapontin au fond du ciel. Moi, j'ai entendu des gens qui disent « Oh, moi, si je suis un strapontin au fond du ciel, ça suffit. » Mais quelle horreur! Ici-bas, c'est un endroit... Nous passons très peu de temps, finalement. Vous voyez, dans quelques jours, je vais fêter mes 60 ans. C'est court. Alors écoutons. Ayons des oreilles pour entendre. Entretenons ces oreilles. Lavons-les. Au sujet des choses concernant le royaume des cieux, un royaume éternel, pas un royaume temporel comme ici-bas. Frères et sœurs, encourageons-nous les uns les autres à pratiquer la volonté écrite de Dieu, afin d'être de ceux qui portent son grain pour un. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs. Merci de les aider à comprendre ces choses, de les secouer, de leur faire comprendre que c'est important. Oui, je suis peut-être un peu comme ce jardinier qui est venu creuser autour de leur vie pour mettre un peu de fumier. Ça fait mal, peut-être j'ai cassé un peu quelques racines en creusant autour de ce figuier. Peut-être que l'odeur du fumier les incommode. Mais Seigneur, je le fais parce que ce que je voudrais, c'est qu'ils portent du fruit quand tu reviendras. Mon Dieu, aie pitié de ces gens qui s'imaginent que c'est bien ce qu'ils vivent, que ça suffit, que c'est super. Mon Dieu, aide-les à comprendre qu'il y a plus profond que ça, que ça suffit pas, que tu es beaucoup plus exigeant. Montre-leur dans les Écritures combien tu as un Dieu d'ordre, combien ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent, quand ils pensent, comme ci, comme ça. Mon Dieu, Seigneur, aie pitié de ton peuple. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir. À bientôt. Dieu vous bénisse.